Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport, comme chaque week-end, en direct jusqu'à 22h, temps universel, résultats, commentaires, mais aussi éclairage sur des thèmes d'actualité sportive, pas forcément à la une. Mais d'abord, bien sûr, la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019, Madagascar tout proche du rêve après sa victoire en Guinée équatoriale. Le Sénégal à l'aise face au Soudan, sale soirée en revanche pour la RDC, battue chez elle par le Zimbabwe. Point complet dans un instant avec Thomas de Saint-Léger. Nous ferons également un petit tour à Clairefontaine, à mi-chemin entre le match amical étonnamment compliqué de l'équipe de France face à l'Islande et la réception d'une Allemagne désormais en sérieuse difficulté. On le verra dans un instant dans le cadre de la Ligue des Nations. L'ouverture de la nouvelle saison de la Coupe d'Europe de rugby, entrée en lice réussie pour les trois clubs français engagés aujourd'hui, le Racing 92, Toulouse et Montpellier. Enfin, un gros plan sur les Jeux Olympiques d'hiver 2026, attribués l'an prochain seulement, mais qui n'enthousiasme apparemment ni les dirigeants politiques, ni la population des villes candidates. Le CIO en a retenu trois, mais aucune d'entre elles n'a encore l'assurance de pouvoir réellement défendre son projet jusqu'au bout. Pourquoi ? Eh bien, élément de réponse en fin d'émission. Allez, comme promis, le point complet d'abord sur la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019 avec vous, Thomas Saint-Léger. Bonsoir.
Bonsoir, Christophe.
On s'intéresse d'abord à une rencontre qui s'est achevée il y a seulement quelques minutes.
Sénégal-Soudan, choc des extrêmes du groupe A et à l'arrivée. Logique respectée, 3-0 pour le Sénégal. Bonsoir, Babacar Fall.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
Vous êtes notre correspondant sport au Sénégal. Victoire sans trop forcer des Lions de la Teranga, des Lions assez remaniés pour l'occasion.
Oui, première sélection et premier but pour le jeune sociétaire de l'Olympiakos Pirée, le jeune Abou Cissé, 23 ans, qui ce soir avec Jérôme Kouyaté formait la charnière centrale de l'équipe du Sénégal en raison des forfaits de Kalidou Koulibaly et de Salif Sané. Ce premier but du Sénégal qui est intervenu à la 17e minute sur un mauvais renvoi de la défense soudanaise dans la surface de réparation. Le ballon repris par Cissé. Et une minute plus tard, à l'ouverture du score, une minute après l'ouverture du score, les Lions enchaînent avec le deuxième but marqué cette fois par Idrissa Gueye sur une passe en retrait de Sadio Mané. Gueye sorti sur blessure juste avant la mi-temps. Les Sénégalais qui rentrent au vestiaire tranquille avec cet avantage de deux buts à la reprise, pas de répit. 50e minute, Mbaye Niang sur un tir du gauche dévié par un défenseur du Soudan aggrave le score 3-0. Et puis après, plus rien, les hommes d'Aliou Cissé ont sereinement géré le reste du match.
Un mot, Babacar, de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Pelouse en mauvais état, les joueurs en ont parlé avant le match. On pense par exemple à Sadio Mané. C'est, il faut bien le dire, un vrai handicap pour la qualité du jeu, la qualité du spectacle.
Ça a fait l'objet, sans exagération, d'un débat national ces derniers jours. Même les joueurs, vous l'avez évoqué, ont commenté l'état de cette pelouse du stade de Senghor de Dakar, le seul du pays qui est capable d'accueillir les matchs des Lions. Il y avait 50 000 spectateurs quand même ce soir. C'était les retrouvailles entre le public et les joueurs après la Coupe du Monde, puisque c'était le premier match à domicile de l'équipe d'Aliou Cissé après ce mondial. Oui, Sadio Mané, par exemple, il trouve dommage qu'un pays qui rentre du mondial possède un terrain de cette nature, ce qui a sans doute impacté la performance de l'attaquant de Liverpool ce soir.
On suivra l'évolution dans ce dossier. Merci Babacar et bonne soirée à vous du côté de Dakar.
Le Sénégal en tête de sa poule à la différence de but, car derrière, Madagascar tient la cadence.
7 points pour ces deux équipes déjà bien parties pour se qualifier. Les Malgaches se sont imposés cet après-midi à Bata face à la Guinée équatoriale. 1-0, service minimum. L'essentiel est assuré. Pour la manière, on repassera. C'est en gros le discours du sélectionneur des Baréas, le français Nicolas Dupuis, au micro de Fabien Essienne.
On a joué jusqu'au but et après on a arrêté de jouer, mais je crois aussi parce que on est tombé contre une très bonne équipe guinéenne que je tiens à saluer. Après, moi, il y a plusieurs façons de gagner les matchs. Il y a parfois comme contre le Sénégal ou la Soudan où on joue, et là où on a fait preuve de rigueur, de courage, et avec un bon gardien aussi, il en faut. Il faut un peu de chance parfois. On n'a pas été mis forcément en difficulté, mais on a été bougé au milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'on aura une autre façon de jouer mardi.
Mardi, vous l'avez compris, ce sera la revanche, cette fois sur la Grande Île. S'ils s'imposent, les Malgaches auront déjà leur ticket en poche pour la CAN.
Et de son côté, la RDC, on est encore assez loin de cette CAN. Hein.
Beaucoup de travail pour les Léopards battus. C'est une surprise par le Zimbabwe. 2-1, score final. Yannick Bolassier a réduit l'écart en fin de rencontre, mais c'était trop tard, beaucoup trop tard pour rattraper un début de rencontre où rien n'a souri aux hommes de Florent Ibengué, le sélectionneur qu'on écoute au micro de Kaboulo, Moana Kaboulo.
Je crois qu'on a essayé. On a essayé de passer à gauche, à droite, au centre. On n'a pas réussi à marquer. Et puis, de l'autre côté, ils ont eu une réussite presque insolente. Hein. Donc, un coup franc et puis une erreur individuelle. Et puis après, bah voilà, on a poussé jusqu'à la dernière minute. On ne peut pas dire que les joueurs n'ont pas mouillé le maillot. On est déçu parce qu'on voulait être qualifié après les deux matchs. On voulait prendre 6 points. Il faut repartir avec le moral. Il faut pas baisser le moral. Il faut repartir pour le remporter aussi un match chez eux mardi. Ils ont réussi à le faire ici. Pourquoi pas nous?
Voilà, rendez-vous mardi à Harare pour Florent Ibengué et ses joueurs au classement de la poule. Le Zimbabwe est seul devant avec 7 points. À 3 longueurs suivent les deux Congos, la RDC, devant le Congo-Brazzaville à la différence de but avec un seul petit point. Le Libéria ferme la marche.
Des étalons enfin au galop. Le Burkina se repart de la tête du groupe I.
Succès face au Botswana 3-0. But signé Jonathan Pitroipa, Banou Diawara et Abdou Traoré. Les 3 points et la manière soirée réussie donc pour les Burkinabés au classement de ce groupe, c'est très serré. 6 points pour le Burkina premier, l'Angola deuxième et la Mauritanie troisième. C'est la différence de but en fait qui départage ces 3 équipes.
Et on passe au groupe B et J, victoire laborieuse à chaque fois du Maroc et de la Tunisie.
Les Marocains qui ont longtemps buté face aux Comores malgré un arbitrage, il faut bien le dire, très favorable. Finalement, la délivrance est venue de Faisal Fajr, buteur sur pénalty à la 97e minute, vous avez bien entendu, 7 minutes après la fin du temps réglementaire. Les Lions de l'Atlas gardent du coup la deuxième place de leur poule derrière le Cameroun qualifié d'office. Des difficultés aussi, vous l'avez dit, pour la Tunisie et une victoire 1-0 là encore contre le Niger.
On enchaîne, Thomas, avec le groupe E. L'Afrique du Sud prend la tête et le Nigeria se replace.
Les Sud-Africains n'ont pas fait dans le détail. Succès 6-0 face aux Seychelles. Carton aussi pour le Nigeria 4-0 contre la Libye avec au passage un triplé d'Odon Ighalo. Au classement, la Libye glisse de la première à la troisième place. L'Afrique du Sud, vous l'avez dit, mène la danse avec 7 points, une longueur d'avance sur les Super Eagles du Nigeria. À signaler enfin dans les groupes K et elle, les victoires de la Namibie au Mozambique 2-1 et de l'Ouganda sur le Lesotho 3-0.
Retour maintenant, Thomas, sur les matchs joués hier. Une soirée de première cap officielle pour plusieurs joueurs. Un Guinéen, Amadou Diawara, deux Camerounais, Jérôme Ongéné et Paul-Georges Tepp, sans oublier en plus le centrafricain Geoffrey Kondogbia.
Paul-Georges Tepp et Geoffrey Kondogbia qui ont pour particularité d'avoir déjà porté le maillot de l'équipe de France à 2 reprises pour le premier, 5 fois pour le second, à chaque fois en match amical. Et dans ce cas de figure très précis, le règlement de la FIFA autorise un changement de nationalité sportive. Pour Kondogbia, baptême du feu un peu compliqué. Les Fauves se sont inclinés 4-0 en Côte d'Ivoire. Ça s'est mieux passé pour le nouveau Lion, Paul-Georges Tepp. Victoire 1-0 du Cameroun contre le Malawi. Comment l'ancien René a-t-il vécu ses premiers pas dans la tanière? Quelles sont ses ambitions pour la suite? Quel mot utiliser pour décrire ses impressions? Réponse au micro de Joël Wadem.
Beaucoup de fierté. Pour moi, le Cameroun, ça a toujours été un symbole qui, ces dernières années, était un petit peu écorné. Mais voilà, avec la victoire en Coupe d'Afrique, je pense que ça a ramené beaucoup de Camerounais derrière l'équipe nationale. Et je pense qu'avec l'arrivée du nouveau staff et ce qu'on essaie de construire ici, ça va encore aller de l'avant, j'espère. Et on a vu hier qu'il y avait de l'engouement autour de cette équipe. J'espère que voilà, sur les prochains matchs, même, ça va être encore plus, que le public va être avec nous, qu'il va essayer de nous supporter. Et ça va nous permettre de leur rendre l'attente qu'il y a autour de cette équipe.
Votre intégration, comment s'est-elle passée?
Elle s'est très bien passée parce qu'il y a des joueurs que je connaissais déjà un petit peu avant. On a un petit peu la même génération, la même tranche d'âge et on se trouve bien sur le terrain, en dehors du terrain, on communique beaucoup, on est souvent au quotidien ensemble. Ça a permis de pas être dépaysé. Voilà, ça a permis d'enlever une certaine pression, une anxiété sur le fait de découvrir un environnement que je connaissais pas. Et voilà, le Cameroun, c'est pas comme si je découvrais le Cameroun parce que je suis né ici et j'y reviens souvent. Mais revenir jouer au Cameroun, c'était quelque chose que je voulais faire et découvrir et j'ai été servi hier.
Et maintenant, votre avenir, vous le voyez bien au sein de Lions Indomptables?
J'ai fait un choix qui est définitif et j'espère apporter mes meilleures années à la tanière.
Alors, votre entrée en jeu, ça vous a fait du bien étant donné qu'en club, vous ne jouez pratiquement pas?
Oui, voilà, ça m'a fait du bien de reprendre du temps de jeu. J'avais la confiance du coach et de mes partenaires. C'est ce que je suis venu chercher ici, forcément du temps de jeu, prendre du plaisir et essayer de partager cette joie du football que j'ai avec le public camerounais.
Alors, que nous promettez-vous pour le match de mardi?
Comme on a démontré hier, on va essayer de donner un état d'esprit irréprochable pour représenter le maillot qu'on porte et se donner à 100% et essayer de mettre les mêmes ingrédients qui nous ont permis de remporter la victoire hier. Je pensais qu'ils ont démontré quelques capacités, même si on a su les contenir. Chez eux, ils vont forcément essayer de plus nous pousser et ce sera à nous d'être peut-être un peu plus patients et essayer de leur faire mal en compte, surtout sur un terrain qui sera différent de celui qu'on a pu connaître.
Voilà, vous avez noté sur votre agenda le rendez-vous mardi prochain, Malawi-Cameroun, deuxième manche et pourquoi pas premier but international pour Paul-Georges Ntep, on verra ça. L'ailier de Wolfsburg en Allemagne et des Lions Indomptables répondait à Joël Wadem. On évoquait tout à l'heure, Christophe, la victoire de la Tunisie face au Niger, 1-0 à l'instant, une réaction qui vient de nous parvenir, celle du sélectionneur du Niger, François Zaoui. Il le sait, les affaires sont bien mal embarquées pour ses joueurs et pourtant il y croit. Écouter.
Beaucoup, parce que l'adversaire n'était pas au-dessus de nous. On a vu une Tunisie moyenne, qu'on pouvait les surprendre, mais les occasions qu'on a eues, nous n'avons pas pu les mettre dans les buts adverses. Et c'est le regret. Donc je me dis que peut-être si on se déploie plus que ça à Niamey, on peut avoir à scorer et peut-être même battre, si possible, la Tunisie. Il y a 9 points à jouer encore. Donc si on a 9 plus l'unique point qu'on a, on aura 10. On ne sait pas qu'est-ce que Tunisie et l'Égypte vont faire par la suite. Si tous les deux perdent aussi leur match et que nous gagnons nos 3 matchs, je pense qu'à 10 points, on peut se qualifier.
François Zaoui, le sélectionneur du Niger, avec Farouk Katou.
Et pour tout savoir sur les résultats de cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019, vous n'oubliez surtout pas d'aller sur notre site africfoot.rfi.fr avec tous les résultats donc de cette journée. Et pendant que les sélections africaines se mesurent, l'Europe avance dans la nouvelle Ligue des Nations. La troisième journée s'est déjà achevée ce soir avec une large et surprenante défaite de l'Allemagne aux Pays-Bas. 3-0, la Mannschaft, dernière de son groupe à 3 avec la France, est donc plus que jamais sous pression avant de venir mardi soir au Stade de France pour y affronter des Bleus pas vraiment au meilleur de leur forme. Jeudi à Guingamp, 2-2 en amical contre l'Islande. Un match sauvé de la défaite in extremis grâce à Kylian Mbappé. Et dans cet entre-deux, entraînement et conférence de presse, rythme comme d'habitude, la vie à Clairefontaine. Mais saviez-vous que les joueurs amenés devant la presse ne sont jamais choisis au hasard? Par exemple, aujourd'hui, sont venus un vieux briscard, Blaise Matuidi, et un tout jeune, Tanguy Ndombele. La présence de ce dernier n'était pas anodine. On va voir ça avec vous, Antoine Grenier. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Tanguy Ndombele, 21 ans, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, une trentaine de minutes en bleu dans les jambes et déjà sous le feu des projecteurs.
Bah oui, pour que les questions des journalistes ne tournent pas trop autour de la contre-performance française contre l'Islande, il fallait envoyer devant la presse un joueur qui avait été bon. Ils n'étaient pas nombreux. Alors pourquoi pas faire parler Kylian Mbappé, stratosphérique encore une fois. Mais dès l'après-match à Guingamp, on avait entendu des petites phrases d'Olivier Giroud ou Hugo Lloris notamment qui disaient que si Mbappé avait été bon, il n'avait pas tout réussi et que tout ne devait pas passer par lui. Alors autant éviter aujourd'hui de braquer encore les regards sur l'attaquant parisien. Et pour cela, Ndombele, entré en jeu à la 67e et qui a lui aussi participé à inverser le cours de la rencontre, était tout indiqué.
Oui, car même éclipsé par la performance XXL de Mbappé, celle de Ndombele a été l'une des meilleures françaises à Guingamp.
C'est lui qui adresse une subtile passe en profondeur à Mbappé à la 82e. Le but est refusé pour hors-jeu. logiquement. Mais 4 minutes plus tard, on retrouve les mêmes. Dombele gratte un ballon dans les pieds islandais et transmet à Mbappé, chanceux, qui provoque le but contre son camp. En 30 minutes sur le terrain, Dombele a effectué une des entrées en jeu les plus intéressantes de ces derniers mois en équipe de France.
Et ce n'est pas sans rappeler les performances d'un autre joueur bleu. Timidité, réserve en dehors, mais agressivité sur le terrain, il y a du N'Golo Kanté en lui.
Et même dans cette sorte de modestie dont il a fait étalage en conférence de presse cet après-midi.
Je me dis que si je suis là aujourd'hui, c'est que, entre guillemets, je l'ai mérité. Mais voilà, une carrière, ça va vite dans les deux sens. Aujourd'hui, je suis arrivé vite, mais je peux partir aussi très vite. Donc, faut toujours rester concentré, être sûr de soi et montrer ce qu'on sait faire.
Arriver vite, ça c'est vrai, il n'a finalement qu'une saison dans les jambes, l'an passé, une quarantaine de matchs, mais déjà des qualités visibles, vitesse, interception, relance. C'est un milieu de terrain complet, Ndombele, dont les performances sur ce début de saison ont tapé dans l'œil de Didier Deschamps. Kanté, auquel il fait penser aussi par son activité incessante. D'ailleurs, quand on lui demande quel joueur l'impressionne en équipe de France, bah plutôt que Mbappé, lui, il préfère citer le joueur de Chelsea.
N'Golo court partout, il s'arrête pas. J'ai déjà entendu, on m'a déjà comparé à N'Golo ou à Paul. Après, je pense qu'on a des qualités similaires sur certains points. Après, moi, je suis jeune, donc j'ai une certaine insouciance, je pense. J'ai moins de pression que les autres pour l'instant. Donc, voilà, je peux jouer plus libéré. Après, quand on s'entraîne avec des joueurs pareils, moi, je regarde beaucoup, moi. Malgré que je m'entraîne avec eux, je regarde beaucoup. Je vois ce que je peux améliorer. Même, je regarde Pogba, je peux regarder plein d'autres. Steven, tout le monde, j'ai à apprendre de chez tout le monde.
Et pourquoi pas apprendre d'un autre milieu de terrain, Blaise Matuidi, l'homme aux 74 sélections, qui avait reproché à certains jeunes de ne pas faire assez d'efforts avant la Coupe du Monde. Il visait Mbappé et Dembélé surtout. Ben là, il trouve que ce Tanguy Ndombele, c'est plutôt intéressant.
Pour sa première sélection, c'était vraiment très bien. Et c'est un joueur que l'on connaît parce qu'on le voit dans le championnat de Ligue 1 et il fait déjà de très bonnes choses avec Lyon. Un joueur qui a beaucoup de talent et il est promis un grand avenir. À lui de continuer à apprendre et travailler, et il pourra faire de grandes choses. Et c'est quelqu'un d'assez calme et discret dans la vie, donc c'est bien, c'est une qualité. Et après, sur le terrain, il exprime tout son potentiel et son talent, donc qu'il continue ainsi.
Mais bon, l'avenir dans l'esprit de Matuidi pour Ndombele, bah c'est pas mardi. Le Turinois sera, sauf surprise, titulaire face à l'Allemagne pour la troisième journée de Ligue des Nations. Ndombele devrait lui retrouver le banc de touche et patienter encore un peu pour s'imposer en bleu. Tiens, la patience, une autre qualité d'un certain N'Golo Kanté.
Merci beaucoup Antoine Grenier, de nouveau dans le Transistor ou votre téléphone mardi soir pour ce France-Allemagne. Affiche en grosses lettres de cette Ligue des Nations qui sera à suivre, notez-le dès à présent, en intégralité sur RFI à partir de 18h45, temps universel, en duo avec Olivier Pron. Un rappel des autres principaux résultats d'hier dans cette Ligue des Nations. 0-0 entre la Croatie et l'Angleterre dans le groupe 4 de la Ligue A, dominé par l'Espagne, qui retrouvera d'ailleurs les Anglais lundi à Séville, et victoire à domicile de la Belgique sur la Suisse 2-1 grâce à un doublé de Romelu Lukaku. Petit cadeau d'adieu à Thierry Henry, définitivement sorti du banc des Diables Rouges en tant qu'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, pour aller s'asseoir sur celui de Monaco. Le club de la Principauté a en effet confirmé ce matin la nomination du champion du monde 98 au poste d'entraîneur. Il succède ainsi à Leonardo Jardim. Thierry Henry a signé pour 3 ans. C'est un retour aux sources pour l'ex-tricolore, ancien pensionnaire du Rocher de 1994 à 1999. Il sera présenté à la presse mercredi. On change de ballon et on passe à la séquence rugby dans Mondial Sport. C'est le grand retour de la Coupe d'Europe saison 2018-2019. Une Coupe d'Europe devenue propriété des Irlandais de la province du Leinster depuis le mois de mai, au nez et à la barbe du Racing 92. Les franciliens repartis tout de même dans la conquête du trophée avec 5 autres clubs français et les débuts sont très encourageants. 3 matchs ce samedi, 3 victoires à commencer par celle précieuse des Racing Men de justesse, 14-13 sur la pelouse des Gallois de Clanecly. Les premiers leaders du classement du groupe du Racing, ce sont les Irlandais de l'Ulster, victorieux à domicile des Anglais de Leicester, 24-10. Très bon départ aussi pour Toulouse, de retour dans l'élite continentale après avoir disputé la saison passée le Challenge européen, à savoir la seconde Coupe d'Europe, et qui est allé gagner 22-20 chez les Anglais de Bath, battu par la faute, il faut bien le dire, de leur arrière Freddie Burns, doublement coupable en seconde période d'avoir raté une pénalité immanquable face au poteau, et 2 minutes plus tard à peine, d'avoir raté un essai décisif car il a trop tardé à aplatir le ballon dans l'embut. Et du coup, eh bien, figurez-vous qu'il s'est fait enlever ce ballon in extremis par Maxime Médard, l'ailier toulousain à la vigilance récompensée.
J'ai été bien éduqué au stade avec Vincent qui lâchait rien et Vincent Clerc qui lâchait rien, et c'est vrai qu'aux entraînements c'est ce qu'on fait aussi, mais beaucoup de compétitions, donc c'est vrai que c'est quand même une marque de la maison, de quand il y a un peu d'espoir, ben il faut toujours voilà travailler, toujours être en équipe, et voilà, aujourd'hui c'est moi, demain sera quelqu'un d'autre, je suis content pour l'équipe déjà.
Maxime Médard sur beIN Sport Toulouse, deuxième provisoire de son groupe derrière le Leinster qui n'a fait qu'une bouchée des Anglais de Wasp 52-3 et qui repart avec le point de bonus offensif. Et puis bonne entrée en matière également pour Montpellier, vainqueur des Écossais d'Édimbourg 21-15. C'était seulement le deuxième match de la saison du 3e ligne L Hérolté. Fulgence Ouédraogo, un ancien du club, Ouédraogo qui avoue avoir un peu pioché pendant la rencontre.
C'est vrai que le rythme, il est au-dessus du top 14 et pour un deuxième match, pour moi, c'était compliqué, c'était difficile. Ils nous ont imposé beaucoup de temps de jeu, beaucoup de volume de jeu. Du coup, il a fallu puiser dans ses ressources. Je pense que physiquement, ils ont pris le pas sur nous et ils ont tenu le ballon plus que nous. On a fait trop de fautes. Quand on était dans leur camp, on a perdu des ballons importants, ce qu'ils ont remis dans la partie. On a pris ce carton jaune aussi et on a une seconde mi-temps qui est très compliquée.
Voilà, compliqué au micro de beIN Sport, Fulgence Ouédraogo, mais dans déjà profitable cette victoire évidemment pour les Montpellierains. En attendant le duel de demain entre Toulon et les Anglais de Newcastle, les deux autres duels avec des clubs français ce dimanche, le déplacement des champions de France, Castres chez les Anglais de Gloucester, et le match entre Lyon et les Gallois de Cardiff. Petit moment d'histoire puisque ce sera le tout premier match européen de l'histoire du Loup, les Lyonnais. C'était la bonne nouvelle du début de semaine pour l'Afrique en général et le Sénégal en particulier, la désignation confirmée de Dakar comme organisateur des Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022. Un processus rondement mené en seulement 7 mois et sans problème apparent, ce qui ne va pas forcément être le cas de la prochaine attribution, celle des Jeux Olympiques d'hiver 2026. Car force est de constater une fois encore que l'accueil de cet événement rend frileux, sans mauvais jeu de mots, et que les déclarations d'intention se concrétise pas très souvent. Des 7 villes intéressées en février dernier, il n'en reste que 3 officiellement déclarées candidates en début de semaine par le CIO réuni lors de sa session à Buenos Aires. Calgary au Canada, déjà ville hôte en 1988, Stockholm en Suède et un duo italien composé de Milan et de Cortina d'Ampezzo. Mais ces 3 villes feront-elles la course jusqu'au bout? Eh bien, rien n'est moins sûr car certaines ne sont pas encore assurées d'un soutien populaire et politique. Les Jeux, surtout d'hiver, n'en balle plus à cause de leur coût et c'est une tendance de fond, rappelle Kevin Bernardi, il est consultant spécialiste des questions olympiques et fondateur du site Sport et Société.
On se rend compte depuis maintenant quelques années qu'il y a une désaffection des villes et plus encore de l'opinion publique pour les Jeux d'hiver, dans le sens où déjà pour 2018, on se retrouvait avec 3 villes candidates, sachant d'ailleurs que à l'époque, Annecy n'aurait peut-être même pas dû être sélectionné dans la liste finale. Finalement, le CIO avait choisi d'accorder sa confiance pour justement maintenir un minimum de suspense avec 3 villes. Pour 2022, le CIO n'avait pas eu ce luxe-là. C'est vrai que là, on se retrouve pour 2026 avec un cas de figure relativement similaire, même si le CIO essaye dans sa récente communication de faire valoir le fait que les villes aujourd'hui misent davantage sur l'héritage de leur site existant ou de leur projet temporaire. C'est une manière habile de contourner le problème, je pense.
Des 3 villes officiellement candidates, donc Calgary, Stockholm et le duo Milan-Cortina d'Ampezzo, pour l'instant c'est Calgary qui semble avoir un petit avantage. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà reçu les Jeux en 88 et que dans l'idée du CIO de relancer un maximum d'installations existantes, c'est un peu la candidature qui tient la corde.
C'est une candidature qui tient la corde du fait déjà effectivement de l'organisation des Jeux en 88 qui a indéniablement permis à Calgary de se doter d'équipements et d'avoir aujourd'hui un héritage important. L'expertise aussi du Canada dans l'organisation de grands événements et fait que le rapport du CIO a mentionner 160 événements majeurs qui sont régulièrement organisés dans le Canada et notamment dans les alentours de Calgary. Après, on a aussi le fait que 80% des sites soient existants, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, c'est vrai que c'est une proportion qui, toujours selon le rapport, est inférieure à ce que proposent Milan et Cortina d'Ampezzo, sauf que la situation n'est pas du tout la même du côté italien, avec justement les atermoiements un petit peu politiques et institutionnels des derniers mois qui font indéniablement la candidature est aujourd'hui toujours active, si on peut dire, mais quand même très très fragilisée, et on verra dans les prochains mois ce que ça peut donner et où ça peut conduire, puisque c'est vrai que sans le soutien politique et institutionnel, une candidature n'a aucune chance d'arriver à son terme.
Et sans le soutien populaire non plus, on l'a vu pour Graz et Sion, et peut-être aussi pour Calgary, parce que le mois prochain il y a un référendum qui sera déterminant pour l'avenir de cette candidature, et les opposants ont l'air un peu de fourbir leurs armes.
Tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec Calgary qui est dans une situation d'organiser un référendum, une consultation populaire, et où, indéniablement, on va se retrouver avec un résultat serré, puisqu'on sait très bien d'expérience que quand on pose une question par oui ou par non, le camp des contre se mobilise davantage, hein, en règle générale, et surtout quand il est question d'une candidature olympique. Donc c'est vrai que le résultat sera assez intéressant à analyser, d'autant plus que le chiffrage présenté par Calgary au cours des dernières semaines peut poser question sur plusieurs points. Et je pense justement qu'on peut, à ce niveau-là, voir des similitudes peut-être avec ce qui s'était fait du côté de la candidature d'Hambourg pour les Jeux d'été, où la révélation du coût du projet d'organisation avait été faite relativement tardivement, un mois avant le référendum, et on avait vu ce que ça avait donné lorsque les habitants d'Hambourg avaient rejeté le projet. On se retrouve aussi dans une situation très délicate avec Stockholm, puisque quand on regarde le rapport d'évaluation qui a été fait par le groupe de travail du CIO, on se rend compte que Stockholm est la ville parmi les trois qui recueille le moins de soutien populaire. Donc ça aussi, je pense que ça peut poser question pour la pérennité de cette candidature au cours des semaines, des mois qui viennent.
Kevin Bernardi du site spécialisé Sport et Société, comme il vient d'ailleurs de l'évoquer, cette candidature de Stockholm semble de plus en plus avoir du plomb dans l'aile, puisque la nouvelle majorité municipale de coalition a annoncé il y a 48 heures qu'elle n'y était plus favorable, mais ses partisans ne laisse pas tomber pour le moment. Quoi qu'il en soit, la fin de la course à l'attribution de ces Jeux Olympiques d'hiver 2026 est annoncée pour le 23 juin 2019, date de la désignation de l'heureux élu à Lausanne. Puisque on a une petite minute avant de se séparer, les toutes dernières infos. En bref, tout d'abord, la victoire de Thibaut Pinot en cyclisme sur la dernière grande classique du calendrier, le Tour de Lombardie. Le coureur de la formation Groupama FDJ a conclu victorieusement un beau mano à mano dans les 15 derniers kilomètres, avec un homme du cru tenant du titre, qui plus est, l'Italien Vincenzo Nibali, battu pour 32 secondes. C'est la conclusion en apothéose d'une semaine triplement gagnante pour le Français, avec ses succès mardi sur la course dénommée les Trois Vallées Varésines et mercredi sur Milan-Turin. Pas de finale à Shanghai en tennis pour Roger Federer. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem s'est incliné devant le Croate Borna Koric 6-4, 6-4. Une défaite à deux conséquences. D'abord la perte de son titre dans ce Masters 1000, mais aussi de sa place de numéro 2 mondial au profit de Novak Djokovic, qui lui disputera la finale de demain après avoir expédié littéralement sa demi-finale avec l'Allemand Alexander Zverev 6-2, 6-1. Enfin, les affaires ne s'arrangent pas pour Montpellier en Ligue des Champions de handball. Cinquième match, cinquième défaite des champions d'Europe, battu cette fois par les Hongrois de Veszprém 30-29. C'est le pire début de saison jamais enregistré pour un tenant du titre. La situation est grave, mais pas désespérée. L'avenir des Montpellierains dépend désormais d'une victoire obligatoire le 3 novembre chez les Suédois de Kristianstad. Voilà, Mondial Sport se termine pour ce soir. Merci à Hélène Avril et Thomas Trochot pour la réalisation. Rendez-vous demain à la même heure et dans un instant, c'est 24 heures en France avec Namoury Dosso. Bonne fin de soirée.
RFI parle au monde en français, mais aussi en 14 autres langues. Écoutez RFI Mondingue.
Don, aïe, ankaku bolodale un lame manikala. Nega kanya segi, anatan fla mande dugula.
Écoutez RFI en mandinkan à Bamako sur 98.5 FM et sur ma.rfi.fr.